Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, actualité de la fiction d'histoire. Au programme de cette table ronde fiction avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, Pascal Horry, professeur à Paris 1, Fabrice Dalméda, professeur à Paris 2 et Étienne Anaïn, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur des annales, un roman, un film et une bande dessinée. Le roman, ce sera le roman de Louis Siac, le chanteur bien connu et celui qui a évidemment porté la parole indépendante, voire indépendantiste en Catalogne. Le roman s'appelle Les Femmes de la Principale et il est publié chez Actes Sud. La bande dessinée, c'est La Bataille de Yachan, de Beaulieu aux éditions Urban China, et le film c'est HHHH d'après un roman bien célèbre, donc, et c'est un film qui est signé Cédric Jiménez. Puis à la fin de cette émission, avec Annick Lemoine qui en est la directrice scientifique, nous tirerons notre chapeau au Festival d'Histoire de l'Art qui se tient depuis ce matin à Fontainebleau, le rendez-vous de tous les amateurs d'art et d'histoire de l'art. L'Estaca, le fameux titre de Louis Siac, composé alors qu'il était très jeune et qui a servi d'hymne à tous ceux qui voulaient se débarrasser du régime de Franco, régime dans lequel, dont on parle dans le roman qu'il vient de publier, donc aux éditions Actes Sud, sous le titre Les Femmes de la Principale, traduit du catalan par Serge Mestre. Un roman donc qui nous raconte l'histoire depuis la fin du 19e siècle d'une propriété, la Principale, dans un village imaginaire de Catalogne. Et c'est un roman très fort qui nous raconte surtout des personnages de femmes assez exceptionnels. Il y a là évidemment celle qui a été la seigneura, celle qui a pris la tête de la propriété à partir du moment où le phylloxéra a fait du mal justement à cette propriété qui vivait de ses rentes viticoles, et ensuite évidemment toutes celles qui lui ont succédé à la tête de cette propriété. Qu'avez-vous pensé de ce roman, donc Les Femmes de la Principale de Louis Siac, traduit du catalan par Serge Mestre, chez Actes Sud. Qui veut commencer? Allez, allez, Étienne Anaïm.
Moi, je veux bien commencer. En fait, j'ai été un peu surpris par le livre parce que dans les 10-20 premières pages, j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à une sorte de saga familiale, un peu classique et un peu ennuyeuse. Et puis, au fur et à mesure du livre, j'ai découvert le principe de fonctionnement du livre, qui est en fait un livre assez intellectuel et assez complexe, puisqu'il superpose plusieurs strates temporelles, qu'il insère d'un seul coup au milieu du livre une enquête policière. Et donc ça devient un livre très intéressant, qui vaut la peine de poursuivre, parce qu'il n'est pas du tout ce dont il a l'air dans un premier temps.
Oui,
ouais, je suis assez d'accord avec Fabrice Dalméda. Étienne Anaïm, c'est vrai que c'est un livre qui souffre, pour moi, d'un problème de construction, dans la mesure où pendant un long moment, on ne sait pas où on va. Et comme il y a en plus des récits intriqués les uns dans les autres, bah ça induit encore une difficulté de compréhension. Mais là encore, Étienne a raison, c'est effectivement un récit qui gagne à aller un peu plus loin. Et on entre vraiment dans le livre, c'est là où c'est un peu, je trouve, un peu triste, autour de la page 100. Ouais. Et là, on est pleinement dans l'intrigue et on comprend ce qui va se jouer. Alors, qu'est-ce qui va se jouer? Oui, Étienne, lève le...
Qu'est-ce qui va jouer?
Ben, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord, en historien un petit peu, ce qui dure. Ce qui dure, c'est un certain rapport à la terre et à l'espace. Avec cette ferme, cette maison, la principale, et ce domaine viticole. Donc, pour nous, Français, il y a toujours une sensibilité un petit peu particulière, mais on se rend compte que les Espagnols ont la même sensibilité avec une pointe de jalousie pour notre vignoble, mais enfin, passons. Donc, là, il y a cet intérêt, c'est-à-dire la terre, les cèpes, la maladie de la terre, éventuellement, qui peut suivre la maladie d'une famille, et puis, ce qui passe, Eh bien, ce qui passe, et c'est là où c'est la grande surprise, je trouve, de ce livre, le grand intérêt de ce livre, c'est qu'à un moment donné, on peut renoncer à la vigne. Mmh. Et on peut renoncer à la vigne, pourquoi ? Pour un nouvel or qui serait la petite noisette. Mmh. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a tout ce traumatisme de la culture qui est là. Alors évidemment, après, c'est pas ça le cœur du livre. Moi, c'est ce qui m'a intéressé parce qu'il y a évidemment ce qui passe. Ce qui passe, ce sont les hommes, ce sont les enquêtes policières, ce sont les indices. Donc, on les cherche à travers le livre et c'est plutôt réussi. Mais en même temps, je dois avouer que le retard à l'allumage pour le livre est peut-être un de ses défauts, vu que nous sommes des historiens qui aiment le récit.
Pascal Horry.
Peut-être que cette difficulté, je suis d'accord avec le retard à l'allumage, page 100 ou 90 ou 110, tient au fait que nous avons affaire, bien qu'il ait 69 ans, à un jeune auteur. C'est-à-dire que c'est son deuxième roman, à 58 ans, cet homme qui est quand même le barde. La Catalogne, c'est vraiment, pour les Catalans, il n'y a rien au-dessus.
Et pas simplement pour les Catalans.
Bien sûr, mais enfin, parce qu'il a servi de modèle, ouais. Mais voilà. Même dans le Poitou, je pense qu'on doit...
Je ne sais pas pourquoi vous parlez du Poitou, mais même dans le Poitou, on a beaucoup écouté Louis Cirque.
Et cet homme, à 58 ans, dit « je m'arrête, je ferai peut-être encore quelques concerts, mais voilà, je ne veux pas déchoir sur scène ». Et c'est vrai que, clairement, il a un tropisme littéraire qui doit le travailler depuis longtemps, il n'est pas le seul. Et dans Les yeux bandés, il y avait déjà une certaine complexité, mais qui était subsumée par le fait que c'était un scénario de film qui était devenu un roman. Là, on a l'impression qu'il veut faire... littéraire, quoi. Et donc, il complexifie, comme ça arrive souvent quand on a 25 ans. Donc, peut-être que c'est un auteur de 25 ans, quelque part. Et d'ailleurs, vers la fin, il y a une phrase. Ma fille, tu n'es pas en train de regarder un film à suspense anglais. Il s'agirait tout au plus de nouveau réalisme italien, genre de Sica, mais en plus humoristique. Et en fait, c'est pas vraiment ça qu'on assiste. C'est-à-dire qu'il a peut-être du mal à situer exactement le ton de son roman. Alors, reste, mais on y reviendra, qu'il y a maintenant quand même une cohérence avec Les yeux bandés, qui était donc le premier roman. On peut appeler ça roman, c'est-à-dire effectivement un rapport à l'identité sexuelle, on y reviendra quand même, le rôle de l'homosexualité dans tout ça, et là, le fait que les femmes sont dominantes. Mais ça,
Victor Massé-Lépinet. Oui, dans une table ronde où il n'y a que des hommes aujourd'hui, effectivement, on peut le noter que les femmes sont dominantes.
Il y a beaucoup de femmes dans ce
oui, oui. Voilà. Mais nous sommes ça certainement compense. Unanimes à dire que c'est vrai. Ouais.
Alors, donc, Victor Massé-Lépinet.
Oui, alors, je suis assez d'accord pour dire que ce roman met un peu de temps à démarrer. En même temps, moi, j'ai bien aimé la première partie. C'est même en ayant lu les 40-50 premières pages que je me suis dit que ce serait un objet intéressant pour notre table ronde fiction. Et c'est vrai que finalement, le roman devient autre chose et devient finalement quelque chose qui ressemble à un polar, j'allais dire, assez classique, bien construit, bien maîtrisé, avec une atmosphère, avec des personnages. Mais si j'avais lu en entier, peut-être que je me serais dit, ce n'est pas vraiment quelque chose pour notre table ronde fiction. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Parce que je pensais que
ça reste intéressant pour les historiens.
Je pensais qu'on aurait beaucoup plus une histoire d'histoire de mœurs, que les femmes, en tant que femmes dans la société catalane, seraient beaucoup plus développées. Finalement, on a des beaux personnages. Il y a une femme dont on n'a pas parlé, c'est Ursula, qui commence et qui clôt le roman. Ursula, c'est la servante qui a 90 ans, donc en 1940, et qui a été au service de la première, puis de la seconde, puis de la troisième génération. Enfin, c'est des personnages très bien campés. L'inspecteur principal, Louis Recader, est aussi assez amusant, entre cynisme, une certaine façon d'être désabusé.
Presque un personnage de film, effectivement, américain.
Fasciné par Hercule Poirot. Et qui mène son enquête avec un peu ses contradictions.
En le lisant, j'ai trouvé ça tout à fait bien pour une table ronde fiction, parce que c'est un livre qui s'y prête extrêmement bien. Mais c'est vrai qu'il y a une entrée progressive dans le livre, c'est-à-dire que on commence en ayant l'impression d'être plutôt dans un registre Giono sur la Catalogne. Et puis progressivement, il y a une enquête policière et au sein du livre, il y a une deuxième couche qui est la couche Agatha Christie. Et d'ailleurs, il fait un certain nombre de blagues, le policier étant lui-même lecteur d'Agatha Christie. Et puis, il y a une troisième couche qui est la couche, nouveau roman, enfin, Rob Grillet, c'est-à-dire qu'on comprend au bout d'un moment que la diffraction chronologique du récit a en fait une logique narrative extrêmement précise et extrêmement complexe, mais qui n'arrive qu'à la fin du livre. Donc déjà, rien que pour cette construction, le livre, à mes yeux, est attachant, même si j'ai, comme Fabrice, regretté un peu le démarrage. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, je pense, pour des historiens, des historiennes, des gens qui s'intéressent au rapport entre littérature et sciences sociales, c'est que, comme Pascal l'a dit, cette superposition de couches permet de tenir un discours très fort sur les femmes, la politique en Espagne, et en fait, il est beaucoup question de la guerre civile, et la sexualité en tant qu'objet de micro-pouvoir, presque au sens foucaldien, c'est-à-dire que ce dont parle le livre, c'est comment des sociétés qui sont pas très éloignées des nôtres avaient un rapport au corps et au sexe qui tissait des liens de pouvoir dans des sociétés rurales absolument extraordinairement dévoilées ici. Et c'est un livre très fort, il me semble, aussi dans cette perspective.
Oui, sur ce livre qui s'intitule donc Les femmes de la principale, de Louis Sillac, chez Actes Sud, qu'est-ce que vous voulez rajouter?
Oui, il y a quand même un vrai lien à l'histoire, dans le sens où justement le passage des époques et leur intrication, c'est-à-dire qu'il y a une première époque qui est à la fin des années, enfin dans les années 1890, qui est le moment où se joue au fond la première succession.
C'est la crise du phylloxéra.
Oui, mais qu'on peut aussi à rapprocher de cette fameuse crise de la virilité dont on discute avec des Vigarello et des Corbin. Ce moment où tout d'un coup, dans cette société purement masculine, un père décide d'avantager sa fille. C'est-à-dire fait tout le nécessaire pour que ce soit elle qui récupère le domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est une première étape. Il y a une deuxième étape qui est effectivement le moment guerre civile espagnole. Les années 1890, on n'est pas encore à la crise de Cuba, on est avant 1898. Mais là, des années 1936-1939-40, puisque c'est là où on y est, ça se qualifie par un retrait. C'est intéressant parce que cette femme récupère son domaine, elle rentre dans les maisons alors qu'il a été pillé en 1939 quand elle revient, parce qu'elle était partie s'abriter dans une station balnéaire. Et tout d'un coup, on a la vision de la guerre civile avec la prise de position sans avoir rien fait. C'est-à-dire, j'attends que ça passe et quand je reviens, moi, je peux être du côté des vainqueurs, quel qu'il soit. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant. Puis il y a la dernière étape, qui est 2001, c'est le moment de la résolution, qui arrive effectivement un peu plus à la fin du livre, où on se rend compte qu'il y a autre chose qui se joue. On est dans le domaine des affaires, et où ben là, tout d'un coup, le vieux père peut se dire « je vais essayer d'écrire le récit de ce qui s'est passé et de le transmettre ». Donc on a vraiment les trois dimensions de l'histoire, c'est-à-dire le côté événementiel, le côté durée, et puis le côté tradition-transmission, qui est au fond l'un des enjeux de notre métier.
Et c'est très intéressant, parce que moi, ce roman m'a fait penser à un beau roman qu'a publié il y a 2 ans maintenant Eddie Kadour, l'auteur de Waltenberg, qui s'appelait Les Prépondérants, qui se passait dans la Tunisie mandataire française, donc la Tunisie sous la coupe de la France coloniale, et qui montrait là aussi l'héritage et la façon dont une femme pouvait gouverner une entreprise rurale, une grande ferme rurale en Tunisie. C'était tout à fait remarquable, et c'est amusant effectivement que ce même personnage de femme se retrouve ici comme étant à la tête d'une communauté rurale, parce qu'elle n'est pas simplement à la tête de sa ferme, mais elle est aussi à la tête du village d'une certaine façon, parce que tout le village
on a oublié ce pouvoir des femmes dans les sociétés rurales. Il y avait la même chose en Italie, je rappelle que les femmes chefs de famille pouvaient voter avant 1914, c'est fait exceptionnel.
Pascal Horry, à propos de Louis Sillac, Les femmes de la principale.
Je ne sais pas si on l'a oublié, mais ça revient, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est très frappant, c'est que dans le monde, disons,
agro-pastoral, parce qu'on parle pas...
tout à fait agro-pastoral, agro-alimentaire, c'est ce que c'est de l'aliment, j'ai hésité un peu là-dessus, les femmes, clairement, deviennent les maîtresses du jeu dans le domaine du vin. Ça, c'est très frappant, alors que...
On insiste beaucoup sur le fait que certaines d'entre elles prennent la tête des propriétés. Je ne sais pas si elles sont si nombreuses
Si, c'est la tendance. Voilà. C'est la tendance, pour en revenir, sans parler des sommeliers, des œnologues. Mais pour aller dans le sens de Fabrice, au risque de surinterpréter, mais allons-y, on est un peu là pour ça. Quand même, la crise de virilité, parce qu'il y a une lecture clairement genrée, et en particulier, qu'est-ce que c'est que la virilité sous le regard de Liatch, qui a clairement, sur ce plan-là, quelque chose à dire, parce que les yeux fardés, inutile de faire un dessin, son premier roman, bien, c'est qu'on est quand même aux alentours de 1898, donc ça commence avant 1898, mais la grande crise morale, politique et de l'Espagne, elle est un peu là, c'est-à-dire, je pense que c'est pas tout à fait par hasard, bon, il y a le phylloxéra.
Ouais, il faut dire pour les auditeurs que 1898, c'est la perte de Cuba, et voilà. C'est toute une génération...
L'extrême fin de l'Empire espagnol, et c'est une vraie crise de morale, politique, culturelle, tout ce qu'on veut, pour les Espagnols, parce que, grosso modo, pourquoi sommes-nous tombés si bas, quoi? Donc, je pense que c'est pas surinterprété que de dire qu'on part de ça. Alors, pour le reste, en ce qui concerne les femmes qui tiennent bon. D'ailleurs, pour nuancer aussi la fille du patriarche, c'est pas forcément un avantage au départ de recevoir cette propriété. Simplement, elle s'en sort justement, contrairement aux augures qui pensent qu'elle va couler.
C'est la vraie résilience, peut-on dire, parce qu'effectivement, elle est a priori pas favorisée par son père, mais au bout du compte, c'est une sorte de cadeau qui pourrait apparaître empoisonné à ses frères et puis qu'en fait, dont elle sait tirer parti.
Mais grâce à elle, donc ça la survalorise. Une phrase parmi 50 qui mettent en valeur cette ce rôle prédominant de la femme, le père de Maria, qui dit, page 277, « Je pensais que les enfants étaient la réalisation de deux personnes, mais c'est une ineptie. Les pères ne sont que des acteurs solidaires. » D'ailleurs, j'ai relu, je me dis, il a écrit « solidaire » ou « solitaire ». Non, « solidaire », alors bon. « C'est vous, les femmes, qui portez tout le poids de l'œuvre. » Ben, c'est vraiment ça.
Oui, ben, parce qu'il faut quand même reconnaître que au moment où le père commence à lui expliquer qu'elle va recevoir cette propriété qui a été entièrement décimée par le phylloxérin, elle dit dans sa tête « Il m'a enterrée, il vient de m'enterrer vivante sous les pierres de cette maison, avec les champs stériles autour, le cellier fermé et le village dans la misère. Il me demande de devenir la gardienne de cette misère, et tout ça parce que je suis une femme. Mufle, il faut que je demeure dans cette bâtisse, dans cette tombe, simplement parce que je suis une femme, mal appris. » Et ensuite, l'auteur continue en disant « Et elle lui fit une bise. » Victor Massé de l'Épinay.
Oui, il y a un autre acteur, une autre institution dont on va parler qui est très importante dans ce roman, c'est l'Église. Là encore, dans un rapport à la virilité, à la sexualité, etc. Un des frères de cette première Maria, qu'on appelle la vieille, devient donc l'évêque de la région, peut-être même cardinal, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, une personnalité.
Une sommité, on le voit évêque.
Très, très importante. Et évidemment, le rapport de ces femmes, de cette société à l'Église, le rapport aussi de l'inspecteur qui ne peut pas enquêter tout à fait librement à partir du moment où il comprend que l'Église ou que des hommes d'Église sont impliqués dans cette sombre affaire d'assassinat. On retrouve, donc on n'a pas dit...
On ne va pas spoiler la fin.
Non, on ne va pas spoiler la fin, mais on retrouve un des domestiques de la maison émasculé dans un sac devant la maison. Quand il comprend que des hommes d'Église ont à voir quelque chose là-dedans ou qu'il y a un secret, il comprend aussi qu'il ne pourra sans doute pas aller tout au bout de son enquête.
Étienne Anaïm.
Oui, et politiquement, ce qu'il y a d'intéressant dans la lecture de ce livre, autour de tout ce qui vient d'être dit, c'est que là aussi, le livre est un peu comme un oignon, c'est-à-dire que les enjeux sous-jacents qu'on vient d'essayer de montrer se dévoilent les uns après les autres. C'est d'abord un livre, effectivement, sur la domination masculine, Emmanuel vient de le rappeler, mais derrière la domination masculine, il y a ce livre sur le franquisme, dont l'originalité est qu'il est écrit par un opposant historique au franquisme, mais dont les personnages, contrairement à ce qui aurait été facile pour lui, sont plutôt du côté des vainqueurs, donc plutôt du côté des franquistes. Presque tous les héros, entre guillemets, de ce livre, en fait, sont du côté de l'Espagne franquiste. Donc un deuxième éclairage qui est un éclairage assez profond. Et puis, tout au fond du livre, il y a cette thématique sexuelle qui est très belle parce qu'elle dit quelque chose de la manière dont dans les sociétés du XXe siècle, des questions qui sont encore très discutées aujourd'hui, en particulier la question de la catégorisation du désir, l'hétérosexualité, l'homosexualité, sont parfois sujettes à un continuum. Et alors, sans révéler, disons, le noyau du livre, on peut dire qu'il y a des personnages dans ce livre qui font des expériences sexuelles diverses, qui ont un rôle extrêmement crucial pour le scénario, et que cette manière-là de montrer la complexité à partir d'exemples simples, je trouve, est très belle.
Merci Étienne Anaïm. Donc, Louise Liac, Les femmes de la principale, c'est un roman traduit du catalan par Serge Mestre chez Actes Sud.
C'est triste de voir son pays mis à genoux.
Oui, et les choses ne sont pas prêtes de changer.
N'en soyez pas si sûr. Un homme peut encore nous sauver. Là, le monsieur sur la photo, c'est notre chef, qui va pouvoir sauver notre pays.
Je cherche quelqu'un pour diriger le nouveau service de renseignement SS.
Le renseignement exige d'être consciencieux et méthodique. Personne n'est plus consciencieux que moi, et personne n'est plus méthodique.
Le pouvoir a besoin d'hommes qui agissent dans l'ombre, et qui sont prêts à tout pour protéger ses plus grands secrets.
Seuls les meilleurs d'entre nous sont à même de rendre toute sa grandeur à la nation.
Savez-vous quel surnom lui a donné le Führer ? Il l'appelle l'homme au cœur de fer.
Londres ne vous envoie pas ici pour une simple mission de routine.
Aucun réseau de résistance n'a jamais réussi à assassiner un haut responsable nazi.
Je veux tout savoir de son emploi du temps. Heydrich doit mourir.
Nous sommes à l'aube d'une journée qui marquera l'histoire. Tous les ennemis de la nation...
Voilà la bande-annonce de ce film qui sort le 7 juin, la semaine prochaine en salle, donc HHHH de Cédric Jiménez, tiré du roman de Laurent Binet. Vous nous le présentez, Victor Massé de l'Épinay.
Oui, et bien alors, ce film HHHH, on vient d'entendre la bande-annonce en français, moi je l'ai vu en anglais. Première chose, peut-être qu'on en parlera, mais c'est que c'est un peu déconcertant de voir un film tout en anglais quand on a affaire à des dignitaires nazis et à des résistants tchèques. Par ailleurs, Heydrich, dans le film, a plutôt un physique mussolinien qu'un physique heydrichien. Mais ça, je vois que tout le monde n'est pas d'accord. Mais enfin, la vraie question que je me suis posée en voyant ce film...
Non, mais le concept de physique heydrichien est intéressant. Il vient d'être testé pour la première fois voilà, à la surface de la planète.
Voilà, bah c'est pas mal. Mais il y a quelque chose dans le physique heydrichien. Je suis sûr.
Le physique heydrichien, c'est un physique de bon à rien.
Et, mais alors, la vraie question, moi, que je me suis posée en voyant ce film, c'est pourquoi est-ce que ce film se présente comme une adaptation de HHHH, le livre de Laurent Binet sorti en 2009, alors qu'il semble être absolument, en tout point, l'opposé de ce qu'il y a dans ce roman, donc que j'ai lu autour de... Je ne l'avais pas lu avant, mais je l'ai lu un petit peu avant et un petit peu après avoir vu le film. Alors, certes, il y a le sujet, c'est donc l'assassinat d'Heydrich en mai 42 à Prague. Il y a évidemment certaines scènes, mais Laurent Binet... n'inventant à proprement parler quasiment aucune scène, Cédric Jiménez aurait pu trouver ses scènes et ses idées de scène ailleurs. Et donc, il m'a semblé que ce film était opposé. Alors pourquoi opposé ? Parce que Laurent Binet, en fait, passe son temps à se demander, à se poser des questions sur comment écrire une fiction historique, qu'est-ce que ça veut dire, comment combler les vides, et surtout comment faire d'êtres humains qui ont existé, des personnages de fiction, comment en faire des personnages littéraires. Donc c'est un livre qui est plein de scrupules, et de scrupules exposés. Et à un moment, Laurent Binet dit qu'il écrit plutôt un infraroman, en fait c'est presque lui qui se met en scène écrivant. Et alors là, dans le film de Cédric Jiménez, j'ai beaucoup cherché quelque chose, une dimension infra, et j'ai beaucoup cherché de scrupules également, parce que je n'en ai pas vu beaucoup.
Qu'en avez-vous pensé, Fabrice Dalméda, de ce HHHH de Cédric Jiménez ?
Ben c'est marrant, parce que c'est un film qui repose, au fond, sur des récits antérieurs, puisque le livre de Binet lui-même évoquait un autre film, auparavant, de 1942, le fameux film de Douglas Sirk, Hitler's Mad Mad, qui racontait la même histoire de l'élimination de Heydrich et du commando qui était parti d'Angleterre pour faire cela. C'était un film d'ailleurs, Sirk était d'origine allemande, il faut le rappeler. Il était arrivé comme réfugié en Allemagne et c'est un film qui avait été fait à la demande des frères Meyer en 1943, pour rendre compte de cet acte héroïque qui venait de se dérouler quand la résistance tchèque avait réussi à éliminer le grand Satan Heydrich. Et donc ça, c'est une première histoire et c'est intéressant de confronter les deux parce que dans le film que j'avais vu il y a des années et des années, c'est un peu, quelque chose qui se passe dans un petit village. Il y a la domination. Et là, on se rend compte, et c'était déjà dans le livre de Binet, que c'est en banlieue, que la localisation du meurtre, enfin de l'assassinat, déjà pouvait poser un problème. L'élimination du ghetto, de la petite ville, du petit village de Lidice, dans le film de 1942-43, l'idée c'était vraiment un truc rural. Là on a l'impression que c'est un prétexte qui avait aucun rapport, alors qu'à l'époque de la guerre on pensait qu'on avait liquidé le village où il avait été assassiné. Or c'est pas le cas. Donc il y a comme ça des petites différences qui font que il faut, je pense quand même, essayer de traiter ce film que nous avons vu en tant que tel, c'est-à-dire pas seulement en fonction de l'adaptation par rapport à Binet et de l'éventuel dialogue avec le film de Douglas Sirk. Et là, effectivement, ce qui est intéressant pour notre époque, c'est, je trouve, une réflexion sur l'héroïsme. Parce qu'au fond, ce film nous ramène à deux figures, au fond, enfin trois figures, puisqu'il y a une figure qui est double, c'est celle de Jan et de Joseph, qui sont les deux Tchèques qui vont assassiner, donc la figure négative, le héros négatif, qu'est Heydrich. Et là, je trouve que Cédric Jiménez, c'est intéressant, parce que Pascal Horry m'a rappelé qu'il était le scénariste d'un film qui s'appelle « Le Scorpion ». Avec Clovis Cornillac, et où Clovis Cornillac est le héros négatif du film. Et donc là, c'est un peu comme ça. On suit Heydrich pendant très longtemps, et Heydrich est vraiment le héros négatif du film, mais en même temps, le héros du film, le personnage principal, celui qui va être assassiné, qui est l'un des architectes de la solution finale, qui est un des peut-être principaux espions de la SS, metteurs en place de services de renseignement, artisans de la torture, liquidateurs de masse. Donc voilà le portrait d'un salaud. Et donc ce personnage-là est celui qu'on va suivre. Et là, je dois avouer que quand même, il y a un truc qui est pas mal dans le film, c'est que on arrive à l'humaniser au sens où on arrive à rentrer dans les raisons de son parcours un peu étrange. type officier de marine, chassé de la marine pour avoir effectué une liaison avec adultérine avec une femme, qui en rencontre une autre aristocrate, qui essaye par son carriérisme et son zèle absolu à Hitler et à Himmler surtout, hein, qui a été son père frère d'armes, de se refaire une carrière dans le nouveau régime. Donc ça, je trouve que c'est assez fascinant. Et de l'autre côté, tout d'un coup, le film bascule. Progressivement, on a ces deux héros positifs, Yann et Joseph, avec tous ceux qui vont les accompagner. Et là, on a une reconstruction qui s'effectue que je trouve assez réussie. Alors, évidemment, beaucoup de violence. Heureusement, Arlette, je la salue, Arlette Farge n'est pas là, mais elle n'aurait pas pu voir un tel film. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on passe notre temps dans le siège à sauter entre les coups de feu, les explosions, les scènes de torture, j'allais dire les viscères qui traînent, le sang qui dégouline. Donc voilà, il y a de la masse. Et en même temps, j'allais dire...
Il y a de
dire,
la masse.
Hein, oui, non, mais en même temps, c'est très notre époque. Pas, c'est ouais, très notre époque.
Vous voulez dire que ça correspond à un certain type de cinéma d'aujourd'hui?
Bah oui, c'est un peu ça. Mais, sauf que, comme d'habitude... Moi, j'ai un petit problème par rapport à ça. C'est-à-dire que quand il y a du second degré derrière, c'est-à-dire quand il y a un petit côté Tarantino, j'arrive à m'en satisfaire. Quand je la vois prise au premier degré avec tout un rapport justement un peu doloriste à l'action, je dois avouer que bon, je suis un peu moins en empathie.
Pascal Horry, à propos de ce HHHH de Cédric Jiménez, donc, qui raconte la traque et l'assassinat de Heydrich pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, pour continuer dans un premier temps, parce que comme Fabrice, on peut sauver le soldat Jiménez ou Jiménez, peut-être quand même à la fin, mais pour continuer à accabler le film, quand même, bon, clairement, c'est pas un film de Laurent Binet, et ça, alors pour les lecteurs de Laurent Binet, Prix Goncourt, Trélu, c'est une grosse déception, on s'y attendait un petit peu, mais c'est une occasion ratée, quoi, bon... le producteur, parce que c'est quand même un film de producteur, quelque part, derrière Jiménez... qui doit beaucoup à ce producteur et à ses sociétés de production, parce que La French, son film précédent, ça fait 1 500 000 entrées en France, donc ça a été un succès, ont certainement dit « tu vas pas faire trop de Binet, tu vas faire du Jiménez ». Bon. Deuxièmement, c'est un film international, alors effectivement, entièrement parlant anglais, alors évidemment, ce qui aurait été intéressant, mais on imagine que là, il n'y aurait pas 1 500 000 entrées, il y aurait 300 000 entrées. C'est un film parlant allemand, tchèque, voire slovaque, enfin tchéco-slovaque, etc.
Ce qu'a su faire Tarantino avec son Inglorious Bastard, justement, jouant sur la subtilité des langues à l'intérieur de son film.
Alors, il faut ajouter que, non seulement c'est pas un film de Laurent Binet, non seulement c'est pas un film de Douglas Sirk, mais c'est pas un film non plus de Fritz Lang. 43, Les bourreaux meurent aussi, c'est ça. C'est ça, avec le scénario de Bertolt Brecht. Mais alors, qu'est-ce qui reste de Jiménez ou de ses scénaristes? Parce que c'est vraiment une production, quoi. Je répète, c'est vraiment le type de film qui devrait avoir un certain succès à cause de ça. Côté international, bon, je pense qu'en Europe centrale, il aura un certain succès, enfin bref. C'est qu'il y a quand même le personnage de Madame Heydrich. C'est-à-dire que ça n'a pas été raté. Lina von Osten, donc l'enfant d'aristocrate déchu, qui est... Alors, c'est l'hypothèse du scénario, je ne suis pas... je ne sais pas s'il y a un profil heydrichien, etc. Je ne suis pas un biographe d'Heydrich, mais apparemment, c'est quand même elle qui a été porteuse de l'engagement politique d'Heydrich, qui était quand même prédéterminé par son milieu. Mais enfin, dans le film, c'est elle qui a la carte du parti nazi. Et je trouve ça intéressant, parce que c'est quand même intéressant, dans cette table ronde où il n'y a pas de femmes, de rappeler que Leni Riefenstahl est quand même la plus grande artiste nazie qui ait jamais existé, et que les femmes pouvaient être des bonnes nazies, etc., contrairement à une image complètement viriliste, à savoir, évidemment, les pauvres femmes sont... Mais non, bien entendu. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En revanche, je suis très surpris que les scénaristes n'aient pas saisi quelque chose qui était en or, c'est-à-dire la polémique autour des éventuelles, très hypothétiques, qui semble-t-il fausses, origines juives de Heydrich, parce que ça, c'était un élément de scénario, alors ça, ils n'en font rien. Et dans l'ensemble, on peut dire qu'en dehors de cette perspective, d'ailleurs, qui peut se renverser, c'est-à-dire que, c'est le cas de le dire, Madame Lina, là, Madame Heydrich, est la personnalité dominante, où on retrouve Louis Latke. Hein, c'est vrai, la personnalité dominante, d'ailleurs, j'allais dire, même dans les actes sexuels qu'on voit, elle est dominante. Et tout le scénario dit, peu à peu, c'est Heydrich qui reprend le dessus, et à la fin, elle est larguée. Ça me paraît très 21e siècle. Pour le reste, c'est une production internationale, honnête. Je suis pas sûr qu'elle soit si sanguinolente que ça. Elle est violente, mais peut-être c'est pas quand même gore hein, pour les auditeurs. Je pense que ça aura incontestablement un certain succès, mais c'est une occasion ratée d'utiliser le côté binet et même l'ambiguïté d'Heydrich. Mmh.
Victor Massé-Lépinet, à propos de ce HHHH.
Moi, je voudrais revenir au côté binet, parce que quand même, ça se présente comme une adaptation. Et justement, ce rôle de la femme est très...
Ça se présente. Ils ont pris les droits. Ils ont,
oui,
avec alors, pas mal de zéros.
Voilà, il a juste défendre son binérisme.
Non, mais alors, la place de la femme d'Heydrich est justement très intéressante, puisque ouais. Binet, dans le roman, nous explique qu'il hésite même, il amène la femme en disant « j'hésite à parler de cette femme », parce que elle a écrit un livre de souvenirs, mais évidemment, elle raconte tout à sa sauce, et puis qu'est-ce qu'elle a vraiment fait ? Et il finit en disant « mais évidemment, l'hypothèse de la femme derrière tout ça est quand même assez intéressante et assez amusante ». Et le film ne prend, lui, aucune pincette et nous montre que c'est Madame Heydrich qui a fait de son mari un nazi convaincu, alors qu'il semble qu'il était quand même déjà très à droite et plus à droite que la plupart des autres membres de l'armée ou de la Kriegsmarine. C'est un des exemples qui nous montre que vraiment il a fait quelque chose, le cinéaste a fait quelque chose de...
Mais c'est un choix scénaristique intéressant quand même.
Oui,
parce que c'est pas politiquement correct.
Non, mais il manque la
Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est pas politiquement correct.
Il manque l'autofiction de Pascal, c'est vrai.
C'est clair. Étienne Anaïm, à propos de ce HHHH.
Oui, alors Emmanuel, vous vous dites, je n'ai encore rien dit, ce qui ne me ressemble pas, mais
on s'inquiète.
Ah, en fait, je n'ai pas vu le film.
Alors, comme moi d'ailleurs, parce
une
que
sorte
non,
de
on n'a pas pu voir.
Ça vous donne une objectivité.
J'ai déjà mis un certain temps à arriver à joindre la presse ensuite pour constater que la séance de projection presse était pleine et qu'on ne pouvait pas avoir de lien. Donc bon, je ne l'ai pas vu. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas vu le film?
On essaie de se renseigner. On peut faire comme Jean-Patrick Manchette à la grande époque quand il écrivait ses critiques de cinéma sans jamais aller voir. Un film,
alors là, j'ai essayé de me renseigner pour lire sur le net. Il y a un certain nombre de sites sur lesquels il y a des critiques du film, mais j'ai compris un peu ce que mes camarades viennent de dire, c'est-à-dire que c'était finalement une sorte de biopic assez classique qui reprenait finalement de Binet une seule chose, ce diptyque entre Heydrich et sa biographie dans un premier temps et dans un second temps la biographie des deux résistants tchèques et slovaques qui vont l'assassiner. Mais effectivement, en vous entendant, ça me confirme dans cette idée qui est la disparition de ce qui était la force du livre, c'est-à-dire l'effet de miroir. Binet se montre toujours en train d'écrire et de réfléchir à ce qu'il écrit par rapport à l'histoire. Et c'est là-dessus parce que, au fond...
C'est pour ça que son livre a été important
oui,
et pour tous les
mais
historiens.
Mais c'est là où il y a un malentendu entre ces films d'histoire qui manipulent en fait simplement des scènes historiques et qui sont des films en costume, et une réflexion sur l'histoire à la manière dont Binet l'amène, c'est-à-dire une réflexion sur le rapport entre... l'historicité et la narration qu'on peut en faire. Et lui montre toujours la limite, et c'est vraiment la force du bouquin. Il y a un passage dans le bouquin où il parle de la rencontre entre les deux personnages, le Slovaque et le Tchèque, qui vont assassiner Heydrich. Et c'est formidable quand on réfléchit à la discussion qu'on vient d'avoir. Parce qu'il dit qu'il pourrait inventer la scène, et il ne sait pas quand ils se sont rencontrés. « Je ne sais pas encore, écrit-il, si je vais visualiser, c'est-à-dire inventer cette rencontre ou non. Si je le fais... ce sera la preuve définitive que, décidément, la fiction ne respecte rien.
Voilà, et eux,
on
ils le font.
On ne parlera pas de ton marque-page.
Et eux, ils le font. Oui. Ils le font, en l'occurrence. Pascal Auré, un dernier mot.
Non, mais les binettistes seront déçus. Mais, à mon avis, ce n'est pas eux qu'on vise. Et je pense que, au-delà d'ailleurs des frontières de la France, d'ailleurs, l'effet Binet s'affaiblira. Et c'est un film de coproduction internationale, bien, bien ficelé, qui rate sans doute les vraies ambiguïtés du sujet. Mais...
Victor Massé-Lépinet, pour
alors, un dernier mot de binettiste sur, par exemple, la scène de fin. Là, on ne spoile pas, puisque la fin de cette histoire est connue. Les deux assassin de Heydrich
meurt à la fin
dans une église. Binet est tellement attaché à la vérité historique qu'il nous explique que l'un est mort en haut, l'autre est mort dans la cave. Là, on a une scène de fin qui ressemble à Titanic, oui, où les deux meurent presque dans les bras l'un de l'autre, noyés sous des tonnes d'eau alors qu'ils avaient en fait de l'eau jusqu'aux genoux. Ça est quand même très décevant, je trouve.
Chacun, parce qu'il y a un Slovaque et un Tchèque, ça c'est très important.
Pascal,
et
il y a
un chapelet pour le Slovaque.
On veut parler de la Chine, Pascal.
Voilà, donc c'était donc HHHH tiré du roman de Laurent Binet, donc de Cédric Jiménez, qui sort en salle mercredi prochain. Ce songe d'automne devant la coiffeuse pour évoquer la bande dessinée de cette troisième donc fiction d'histoire de cette table ronde fiction de ce vendredi, la bataille de Yashan 1279 de Beaulieu, donc qui est publié sur chez Urban China. Vous nous le présentez, Victor Massé de l'Épinay.
Oui, une grosse bande dessinée, 250 pages en noir et blanc, qui raconte donc cette bataille de Yashan à la fin du XIIIe siècle, qui met aux prises donc une bataille navale, une des plus grandes batailles navales de l'histoire, qui mettent aux prises les Mongols de la dynastie Yuan, qui a été fondée quelques années auparavant par Kublai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, et la dynastie chinoise des Song, qui a à sa tête l'empereur Songbing, qui a 7 ans et qui va s'éteindre lors de cette bataille. Alors sur la forme, on est un petit peu déconcerté par cette bande dessinée en noir et blanc. Donc Beaulieu vient de la bande dessinée traditionnelle chinoise, les Lian Yuan, qui sont un peu plus des illustrés que de la bande dessinée. On a des images et puis un petit récitatif en bas. Sur le fond, on va sans doute en parler, c'est une bande dessinée très, très descriptive de bataille. On a beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies, beaucoup de grands hommes aussi. C'est toujours les généraux qui mènent les assauts, qui meurent en héros, qui prennent les grandes décisions. Voilà. Pour la présenter très brièvement, je ne sais pas ce que les uns et les autres en auront pensé.
Fabrice Dalméda, de moi, cette bataille de Yashan.
Il y a un côté effectivement répétitif dans les scènes de bataille, etc. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de passionnant, c'est essayer de le lire comme une réflexion aussi en miroir de la Chine actuelle. Et d'essayer de se dire ce que nous raconte Beaulieu sur la Chine actuelle à travers cette bande dessinée, sachant qu'il a déjà fait une autre bande dessinée qui parlait de la bataille de Shanghai en 1937 et où, là encore, il impliquait, je trouve, son patriotisme, voire son nationalisme. Et moi, je trouve que c'est assez passionnant de lire cette bande dessinée un peu à la manière dont on a pu lire, alors vous avez trouvé que ma comparaison est abusive, etc., mais dont on a pu lire Walter Scott et la reconstruction par rapport aux Saxons et aux Normands. C'est-à-dire que ce qui est très fascinant, c'est que pour lui, il y a une invasion mongole. Nous, vu de chez nous, on a l'impression que ça s'est fait, qu'ils ont gagné, puis qu'après, ils ont installé leur régime, et puis grosso modo, ça a continué. Non, lui, il décrit ça comme une invasion meurtrière comparable à celle des Japonais, des liquidations de masse. Il décrit la dernière bataille, il dit, voilà, 10 000 personnes sont mortes, pas seulement des soldats, toute la cour des Song a disparu, a été liquidée, les femmes, les courtisanes, les héritiers, les enfants, les adultes. Donc en gros, il nous décrit vraiment quelque chose qui est... une extermination de masse de ceux qui représentent peut-être, pour beaucoup de Chinois, le sommet de la culture. C'est-à-dire que les Tang et les Song, c'est-à-dire les deux dynasties qui ont précédé, sont considérés souvent comme le sommet en termes d'art poétique, par exemple, ou même en termes de vase. Ce sont des objets extrêmement précieux. Donc ça, j'ai trouvé que c'est extrêmement intéressant de lire ce récit à la lueur de la Chine actuelle. Et donc, l'obsession pour les généraux, l'obsession pour les princes, qui est peut-être justement le miroir du régime dans lequel il vit aujourd'hui.
Étienne Anaïm, sur cette bataille de Yashan.
Alors, moi j'ai été un peu surpris dans la mesure où j'ai découvert la bande dessinée chinoise avec ce livre, mais j'étais assez fasciné aussi. C'est-à-dire que, bon, il y a une dimension de nationalisme chinois qui s'exprime dans cette bande dessinée, comme dans le cinéma chinois, c'est-à-dire ça rappelle beaucoup en fait le cinéma historique en costume. Mais au-delà de ça, il y a au moins trois choses qui m'ont intéressé. D'abord, c'est une variété inconnue de moi jusque-là, de l'épique. C'est-à-dire que effectivement, c'est de l'histoire bataille si on veut un peu réduire les choses, mais c'est surtout quelque chose qui résonne moins avec l'histoire bataille européenne du 19e ou du 1er 20e siècle qu'avec la tradition de l'Iliade, des épopées médiévales. Et en ce sens, c'est déjà assez fascinant. Et puis, deuxième aspect, c'est la fascination visuelle. C'est-à-dire que il emploie des modes graphiques qui ne sont ni ceux de la bande dessinée européenne ou américaine, ni ceux du manga japonais. Il y a des cases qui sont magnifiques, par exemple à la fin de la bataille, il y a page 252-53, il y a cette grande case traversante de toute la page où on a en fait la mer qui est jonchée de morts. Et il y a une invention graphique qui est extrêmement...
10 000 corps tapissés la surface.
C'est ça, c'est le seul petit texte de cette case extraordinaire. Et tout ça, c'est très beau. Et puis, troisième chose qui m'a frappé, c'est la beauté du récit
historique pour le coup, qui n'est pas simplement celle, de l'histoire de la Chine ancienne qui se détruit et se reconstruit face aux Mongols, mais qui est plus généralement que ça, je crois, une sorte de memento mori, de vanité des hommes face à la mort. Et la dernière case porte cette phrase que j'ai trouvée au fond être la morale historique du livre. Les mêmes vagues clapotent, les mêmes couchers de soleil dardent leurs rayons chauds à la surface de l'eau sombre, les mêmes mouettes planent en quête de nourriture. Tout cela n'aurait-il donc été qu'un cauchemar ? Et alors c'est assez beau de finir une histoire de bataille par cela, parce que ça pose une question du rapport des sociétés à leur propre traumatisme et à leur histoire.
Pascal Horry, vous aviez déjà présenté en coup de cœur cette bataille de Yashan lors de la dernière table ronde fiction, donc c'est que vous l'aimiez bien, et qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus ?
Pas beaucoup de plus, puisque mes deux camarades ont dit ce que je voulais dire. Enfin, je suis content, en particulier de la lecture d'Étienne. C'est à trois niveaux. Il y a effectivement une histoire bataille. On pourrait se dire d'ailleurs, il faudrait qu'on conseille à Bolou de lire quelques historiens qui ont fait l'anthropologie de la bataille, mais de façon spontanée, il le fait un peu. Et cette préoccupation stratégique, c'est assez exotique pour un lecteur occidental. Bon. Deuxième niveau de lecture, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Fabrice, c'est un texte nationaliste chinois. Il suffit d'aller en Chine, tourner le bouton de la, enfin avec la télécommande de la télévision chinoise, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire des films à costume qui montrent évidemment la victoire finale des Chinois sur les méchants étrangers. Alors, je suis bien d'accord, Marco Polo, il visite la Chine dominée par les Mongols. Et donc, on perçoit pas, nous, en Occident, ça, alors que pour les Chinois, c'est une nuance considérable. Il faut pas oublier que la dernière dynastie est Manchu, et que les Manchus sont moins étrangers que les Mongols, mais à peine. Et donc, il y a cette dimension-là. Renverser l'Empire, c'était aussi redevenir chinois, s'installer d'ailleurs à Nankin et non plus à Pékin. Enfin, Pékin, c'est une ville étrangère au départ. Cette dimension-là, je la confirme. Elle est d'autant plus impressionnante que Bolu est un rocker aussi. C'est-à-dire que c'est théoriquement un type à la redresse. Et bien sur ce plan-là, il a le discours dominant en Chine. Et en effet, politiquement, on peut se demander, c'est plutôt Kuomintang à la limite que communiste. Et enfin, je suis d'accord avec Étienne, il y a un intérêt graphique, mais qui tient à ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le manhwa, c'est le bon manhwa, c'est pas simplement un copier-coller du manga, parce qu'il y a des Chinois qui font du copier-coller du manga. Je m'étais permis de le dire un jour en Chine, et le représentant du Parti communiste chinois avait opiné gravement.
Expulsé directement.
Non, au contraire. Le Parti communiste était bien d'accord avec moi. Mais c'est effectivement une synthèse.
J'en suis très fier.
J'ai ma médaille. Ça s'est passé à Shanghai. Et en revanche, c'est vrai que là, il y a une synthèse avec les traditions graphiques chinoises et les apports quand même du manga.
Un dernier mot.
Non, juste en synthèse, Damien. C'est pour dire qu'au fond, cette bande dessinée, l'intérêt, c'est que c'est un peu comme disaient Terence Ranger et Hobsbawm, c'est une forme d'invention de la tradition, et on voit bien comment une mythologie est en train de se renforcer dans la Chine actuelle.
Oui, surtout sur une bataille perdue, c'est quand même cela aussi.
Comme la bataille de Shanghai,
avec cette idée, effectivement.
Les défaites glorieuses.
Voilà, les défaites glorieuses, voilà. On connaît ça en France assez bien, nous-mêmes.
Vercingétorix.
Voilà, exactement. nous avons parlé de la bataille de Yashan, 1270 de Bolu, donc publié chez Urban China, du film HHHH tiré du roman de Laurent Binet, Cédric Jiménez. Il est en salle la semaine prochaine, et la première fiction d'histoire de cette table ronde fiction de ce mois était donc le dernier roman de Louis Siac, le chanteur, Les Femmes de la Principale, roman traduit du catalan par Serge Mestre chez Actes Sud. Et nous avons tout de suite au téléphone, pour conclure cette émission, Annick Lemoine. Bonjour Annick Lemoine.
Bonjour.
Vous êtes donc directrice scientifique du Festival de l'Histoire de l'Art qui commence aujourd'hui à Fontainebleau. Alors nous, les historiens, nous connaissons bien le Festival de Blois, le Festival de Pessac, désormais le Festival de Toulouse qui s'est tenu il y a 2 semaines, qui sont des lieux de rencontre pour historiens, mais on peut dire que pour les historiens de l'art, c'est Fontainebleau.
Effectivement, c'est Fontainebleau depuis 7 ans, nous en sommes à la 7e édition. Pendant 3 jours, à Fontainebleau, au château de Fontainebleau et dans toute la ville de Fontainebleau, se réunissent la communauté des historiens de l'art dans la volonté justement de partager passion, découverte, actualité avec le public.
Avec ce principe, effectivement, de la gratuité pour la plupart des conférences, des débats. Toutes les conférences et tous les débats, donc où on peut se rendre pendant tout le week-end. Il y aura combien de 250 événements, c'est ça, quelque chose comme cela?
Oh oui, près de 300 événements. Effectivement.
Alors, et dans ces événements,
150 intervenants, 157 conférences et débats, 70 films, des visites guidées, un salon du livre avec plus d'une centaine d'éditeurs, des activités pour le jeune public, des spectacles, des expositions. C'est extrêmement riche.
Et donc, toujours comme toujours pour le Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau, avec deux thématiques. Une thématique, disons, transpériode, qui aujourd'hui, cette année, est donc la thématique de la nature. Et puis, un pays invité. Et cette année, ce sont les États-Unis. Ça tombe bien avec les sorties récentes de Donald Trump, en l'occurrence. J'imagine qu'on en parlera. Parce que la particularité aussi du Festival d'Histoire de l'Art, c'est que comme à Blois, ou comme dans d'autres endroits, eh bien, vous êtes dit qu'il n'y avait pas d'histoire de l'art sans actualité, sans rapport à l'actualité en train de se dérouler. Et donc, vous avez rajouté depuis l'année dernière un forum d'actualité.
Effectivement. Notre ambition, c'est vraiment que le Festival de l'Histoire de l'Art soit aussi un lieu de débat de l'actualité, extrêmement ouvert, voire polémique. Et l'invitation aux États-Unis, a une résonance particulière. Plus de 40 intervenants américains seront présents, toutes les grandes institutions d'histoire de l'art, et tous ont souhaité aborder des questions, des problématiques les plus actuelles qui les concernent et qui les animent au regard de la politique contemporaine américaine ou des questions des identités minoritaires. Mais pour revenir sur cette question actuelle de la politique, par exemple, nous allons revisiter les mythes et les grandes icônes de l'art américain, et un professeur de Berkeley, Darcy Grimaldi-Grisby, a souhaité aborder la question et revisiter la figure de la statue de la liberté pour évoquer la question de la liberté de la parole, la liberté des individus, la présence de minorités et d'immigrés aux États-Unis. Donc, vous serez invité à revisiter une mythe et icône à chaque fois avec un regard décalé et en rapport avec l'actualité.
Alors, on imagine que les visiteurs de Fontainebleau vont faire le lien direct entre la nature et les États-Unis à l'occasion de la déclaration de cette nuit de Donald Trump, effectivement, sur le retrait des États-Unis du processus de Paris. Donc, mais on débattra aussi de questions très très chaudes, pourrait-on dire, dans l'espace américain, la question de la conscience politique et de l'esthétique noire, par exemple. Il y aura une conférence sur ce thème. Il y aura aussi des conférences autour de la question des musées américains qui feront se confronter une vision très particulière de ce qu'on appelle la curation aux États-Unis ou la façon dont on enrichit les collections, mais aussi dont on se sépare de ces collections, avec ceux qui en France pensent justement qu'il y a inaliénabilité des collections françaises.
Inaliénabilité.
Voilà, c'est ça.
Voilà, effectivement, des collections.
Et donc, effectivement, faire se confronter une vision très française de ce qu'est la patrimonialisation, l'entrée d'œuvres dans les musées qui n'en sortent pas, avec une vision très américaine, très différente. Et j'imagine qu'il y aura des débats autour de cette question-là très fort.
Ah oui, c'est sûr et certain. Nous avons invité du coup à cette table ronde à la fois des conservateurs ou directeurs de musées américains et français pour confronter leur vision, leur politique, mais également des Français qui travaillent aux États-Unis, notamment au Getty. Et je sais déjà par des différents échos que ce débat ou cette table ronde sera extrêmement suivi et sera l'objet de confrontations et voire de prises de position, puisque ce sont deux politiques muséales totalement opposées. Et nous souhaitons à chaque invitation d'un pays invité, comparer, confronter les différentes méthodes, les politiques muséales ou de recherche, pour justement voir les atouts, les difficultés, les défis, etc. Et effectivement, au regard de l'actualité, cette année, le pays invité et le thème se rencontrent autour de la question de l'écologie, l'écologie dans l'art et la prise de position également des artistes. Il y aura donc, il sera question de l'art écologique ou pour remonter dans le temps, poser cette question de l'écologie au regard de, par exemple, les Médicis. Peut-on penser les Médicis comme des proto-verts, ces questions-là seront aussi posées en rapport avec le mythe de la nature aux États-Unis et la façon dont aujourd'hui Donald Trump s'en empare, par exemple.
Et donc, évidemment, vous n'avez pas peur de la polémique, on a bien compris, dans ces rencontres de Fontainebleau, puisque vous allez travailler sur le faux en art. et le faux en art, effectivement, ça fait partie des questions qui sont gênantes, en particulier quand, j'imagine, il n'y a pas que des responsables de musées, mais des responsables de galeries, des experts d'histoire de l'art qui viennent régulièrement à ces rencontres de Fontainebleau et donc qui posent la question, effectivement, de ces copies, de ces faux, des enquêtes judiciaires, de la façon dont les experts débattent entre eux, pourrait-on dire, de la vérité ou du faux en art. Ça sera aussi une des tables rondes. Ça sera dimanche à 14h30 au château de Fontainebleau. Les étudiants suivent pas mal ces rencontres de Fontainebleau, comme d'ailleurs ils suivent les rencontres quand ils sont historiens ou géographes de Saint-Dié ou de Blois, c'est cela ?
Ah oui, effectivement, les étudiants sont extrêmement présents et nous souhaitons leur donner la parole. Ça nous semble essentiel qu'ils puissent à la fois partager leur objet de recherche, leur passion et que leur père, les professionnels, puissent les écouter et que les étudiants puissent aussi, dans un cadre beaucoup moins hiérarchique à l'université ou au musée, rencontrer d'autres professionnels. Ils prennent la parole cette année dans le cadre d'une sorte de marathon de concours où le samedi matin, à 10h et pendant 2h, une sélection d'étudiants en histoire de l'art va proposer de présenter en 180 secondes, leur recherche. Un prix sera délivré aux gagnants de ce concours. Et par ailleurs, nous avons aussi nos étudiants invités privilégiés du festival dans le cadre de rencontres internationales des étudiants qui sont donc sélectionnés et invités à suivre le festival, des étudiants qui viennent des Français mais également européens et américains cette année.
Voilà, donc le Festival d'Histoire de l'Art commence aujourd'hui. Vous êtes déjà sur place à Fontainebleau, Annick Lemoine, donc, et ça dure jusqu'à dimanche à Fontainebleau, donc avec pour thème la nature, on l'a compris, d'un côté, et de l'autre côté, les États-Unis. Eh bien, bonne rencontre de Fontainebleau, bon festival de l'Histoire de l'Art. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Alexandre Dang nous a accompagnés à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous proposons une programmation spéciale. Vous le savez, il y a des élections bientôt et nous allons donc consacrer toute la semaine à la question d'une histoire des assemblées. Nous commencerons lundi avec Vincent Azoulay qui nous parlera de l'Ecclésia et de la boulée athénienne. Mardi, nous parlerons des États généraux. Mercredi, nous aborderons la question des États-Unis et de la façon dont ce pays s'est créé un régime parlementaire en sortant de la colonisation britannique. Pour finir, nous parlerons des institutions supranationales. Ça sera jeudi. Nous parlerons de la SDN et de l'ONU.